Lors de notre précédent épisode, nous nous sommes entretenus avec Pierre Lemoine, le digne héritier des éditions Henri Lemoine, pour qui édition musicale rime avec savoir-faire et rigueur. Pour ce nouvel opus, place au duo à la tête de la jeune maison Ona, qui va bientôt souffler ses 10 bougies. La jeunesse influe-t-elle sur la conception du métier? Les frontières sont-elles les mêmes? Rencontre avec Misaël Gauchat et Maxime Barthélémy. Bonjour Misaël, bonjour Maxime. Est-ce que vous pourriez vous présenter?
Moi, je suis Misaël Gauchat, je viens d'Argentine, et je suis éditrice et co-directrice des éditions Maison Ona.
Et moi, Maxime Barthélémy, co-directeur avec Misaël. On a commencé ce projet vraiment ensemble en 2013, donc ça va faire bientôt 10 ans.
Quel est, pour vous, le métier d'éditeur et d'éditrice?
Bon, pour nous, on croit que l'éditeur est le lien entre les créateurs et la société. Nous nous occupons de mettre à disposition les partitions des pièces composées par nos compositeurs et compositrices, autant pour les musiciens qui vont les jouer en concert que pour les publics en général, les mélomanes, les étudiants. C'est un lien entre les créateurs et les récepteurs.
Pour moi, le métier d'éditeur tel qu'on l'a façonné, imaginé aussi, peut-être avec Misaël, c'est effectivement ce trait d'union et cet accompagnement aussi, évidemment, le lien humain qu'on peut construire. Il y a beaucoup de compartiments, en fait, dans ce métier, mais ça nécessite une vision très large et à très long terme.
S'il y avait trois qualités ou compétences indispensables pour faire ce métier, ce seraient lesquelles?
Le respect. Le respect dans le sens de respecter les compositeurs, respecter les musiciens pour lesquels on travaille, respecter l'objet. La deuxième, c'est le sens du détail, qui est important pour le niveau de qualité que nous nous exigeons nous-mêmes. Et le troisième, c'est la passion. Ça permet d'avoir la patience pour bien planifier des choses et de la patience pour attendre les résultats et de ne pas se décourager.
C'est quoi le modèle économique d'une maison d'édition?
Donc, le modèle économique d'une maison d'édition, qui agit principalement dans le secteur de la musique contemporaine, il est un petit peu paradoxal, je pense. Tout ce qu'on a en termes de modèle et de représentation veut qu'on doit atteindre des objectifs à très court terme. Et en fait, un éditeur ne peut pas du tout réfléchir comme ça. C'est-à-dire que ça prend plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, avant qu'une œuvre dans laquelle il investit un certain travail s'amortisse. Déjà, le premier ingrédient, c'est d'avoir une vision sur du très long terme. Quand on signe un contrat d'édition, d'ailleurs, on s'engage avec l'auteur sur un très long terme, puisque c'est la durée légale du droit d'auteur. Aujourd'hui, c'est 70 ans après la mort du compositeur en question. Ça, c'est le premier ingrédient. Le deuxième élément de réponse, c'est qu'il va être pluriel, en fait, le modèle économique. Pour qu'une œuvre puisse exister, rayonner, se développer, se déployer, il va falloir atteindre différents publics et agir sur différents segments aussi de l'économique et de l'écosystème. Donc ça veut dire faire en sorte que l'œuvre existe en situation de concert, faire en sorte qu'elle soit enregistrée, qu'elle soit fixée sur disque, qu'elle passe à la radio, qu'elle puisse être dans un second temps synchronisée à l'image, éventuellement si c'est pertinent, réaliser des ventes et des locations, donc ça c'est les revenus plutôt gérés directement par l'éditeur. Et du coup, ça implique d'être extrêmement actif et d'avoir son propre réseau pour pouvoir trouver des débouchés à tous ces endroits-là.
Moi, je peux rajouter que aussi, nous, on est un des rares nouveaux éditeurs. La plupart de nos collègues, c'est des maisons d'édition historiques qui ont plusieurs décennies, même des centaines d'années.
Quel est votre rapport aux artistes? Quelle relation vous entretenez avec eux?
Nous nous considérons comme une grande famille chez Maison Ona. Nous avons fait le choix de travailler avec un petit nombre de compositeurs et de compositrices pour pouvoir réaliser un travail personnalisé et de haute qualité.
Donc ça veut dire qu'il y a un accompagnement très concret au quotidien, mais aussi toute une mise en place de stratégies ou de priorités pour faire en sorte que les œuvres déjà écrites puissent être reprises. Avec chacun, chacune, en fait, il y a vraiment une relation privilégiée et chacun, chacune n'a pas les mêmes besoins au même moment.
Comment est-ce que vous êtes devenus éditeur et éditrice?
Avec Maxime, on était tous les deux étudiants de composition. Parce qu'avant d'être éditeur, on était compositeur. Je faisais de la gravure musicale déjà depuis plusieurs années et Maxime avait aussi cette idée de l'édition des chants en tête. Et en même temps, on voyait dans notre entourage que beaucoup de compositeurs et compositrices étaient mécontents avec leur éditeur et aussi que les musiciens se plaignaient aussi beaucoup. Nous nous sommes dit que la meilleure façon de changer les choses, c'était l'action en fait.
Effectivement, on vient vraiment du faire et de l'écoute. En fait, quand on est étudiant dans une classe de composition, on a entre les mains en fait des centaines, des milliers de partitions différentes. Avec Michel, en fait, on était passionnés par justement les différentes stratégies de notation que trouvaient certains compositeurs pour déployer leur langage ou voir certaines qualités graphiques. On était quand même très, très intéressés initialement par l'objet aussi.
Comment est-ce que vous choisissez les artistes ou les œuvres que vous accompagnez ?
Nous choisissons les artistes et toutes leurs créations. On ne fait pas de sélection de pièces. Dès qu'on accepte ou qu'on choisit de travailler avec quelqu'un, c'est pour toute sa création, même au-delà des partitions. Ça nous arrive d'éditer aussi des écrits. Bien sûr, on doit aimer ce qu'ils font ou elles font, mais c'est aussi une démarche sincère qui nous intéresse. Et le fait aussi d'avoir une affinité au niveau humain.
J'aurais la même réponse que Michel. Pour moi, la première des raisons, c'est d'être touché, voire plus, bousculé même, si possible, par une œuvre ou une démarche. Si en plus, sur le plan humain, il y a quelque chose aussi de constructif et surtout une longueur d'onde, quelque chose voilà, qui résonne, bah, alors là, c'est encore mieux.
Est-ce que vous pourriez nous parler d'un projet dont vous êtes les plus fiers, voire au contraire les moins fiers ?
Peut-être, c'est pas en question de fierté, mais c'est au niveau des projets les plus fous qu'on a réalisé avec Maxime. Je pense que c'est la 10e symphonie de Pierre-Henri.
C'est une création posthume, une pièce imaginée, composée par Pierre-Henri dans les années 70, donc qui n'a jamais pu voir le jour de son vivant. Lui-même pensait que c'était impossible, donc c'est pour dire. Et en fait, c'est une œuvre qui prend pour matériaux des fragments, des centaines de fragments dans les 9 symphonies de Beethoven, qu'il a entièrement donc recomposées, mixées. C'est une œuvre instrumentale, donc pour 3 orchestres, et donc 3 chefs d'orchestre et un grand chœur. Et c'est une œuvre qui a quand même une très grande envergure, de plus d'une heure et demie. La fierté, elle vient du fait aussi qu'on a porter vraiment de A à Z l'intégralité du projet, c'est-à-dire qu'on a eu accès aux manuscrits, il y a eu un travail énorme de reconstitution et aussi de pouvoir aller frapper à la porte de la Philharmonie, leur dire voilà, on a ça, on le fait ensemble ou pas, d'arriver 2 ans plus tard à une création, le fait que ce soit aussi capté, diffusé sur Arte, qu'il y ait un disque et ainsi de suite. Ça, c'est vrai que c'est une fierté de pouvoir agir comme un révélateur en fait.
Est-ce que vous pourriez nous parler d'une œuvre qui vous a marqué ?
Je pense que pour répondre à cette question, on ne choisirait pas forcément une œuvre sur laquelle on a travaillé, parce qu'on est trop concerné en fait.
Moi, je peux parler des compositeurs en général, pas des pièces, mais pour moi, c'était important la découverte de Stockhausen ou de Lachenmann qui m'ont introduit à la musique contemporaine en fait, et qui, je pense que c'est fondamental pour le chemin que j'ai parcouru après. Là, si je me trouve ici, peut-être, c'est après écouter des compositeurs comme ça qui m'ont donné envie de continuer sur ce chemin.
Et vous écoutiez quoi quand vous étiez petit ?
Moi, j'écoutais un peu de tout. Hein. De la musique classique, je faisais aussi les conservatoires, la danse classique, donc les milieux classiques étaient très présents, mais aussi de la pop, du rock.
Ben moi, dans mon parcours aussi, c'est passé par le classique, mais étant plus jeune, c'était pas tout à fait ce qui me plaisait d'écouter. J'étais plutôt à écouter ouais, du rock, du punk, plein de choses où en général il y a une énergie quand même présente. La création sonore aussi, c'est venu bien plus tard. Il a fallu un temps, un chemin pour que ça me soit accessible aussi.
Qu'est-ce que vous conseilleriez à un ou une artiste qui cherche un éditeur ou une éditrice ?
Moi, je dirais de ne pas se presser et de connaître très bien avec qui on signe. Je dis toujours que un contrat avec un éditeur, c'est bien qu'un mariage. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas être défait. Et donc, c'est des décisions qui doivent être prises, pensées et réfléchies. Et surtout, c'est pour du long terme.
Si on admet donc que quelqu'un qui cherche un éditeur, une éditrice, est plutôt dans un début de carrière ou de construction artistique, peut-être un conseil serait d'être très concentré sur son œuvre. Le plus important pour quelqu'un qui crée, c'est d'être joué dans des bonnes conditions. Le moment où ça affleure, où ça émerge, il y aura forcément une maison d'édition qui va s'y intéresser. Je pense que c'est plus confortable qu'un éditeur vienne vers vous que le contraire pour pouvoir amorcer une relation aussi.
Quel conseil est-ce que vous pourriez donner à quelqu'un qui voudrait faire ce métier?
Comme on l'a dit avant, beaucoup de patience et de ne pas se décourager pour les moments difficiles. Ça demande beaucoup d'efforts. Mais ça donne, c'est gratifiant, je pense, quand la passion est là.
Je pense aussi que le plus important, c'est de faire des choses. En tout cas, nous, c'est la manière dont on a abordé ce métier qu'on a complètement façonné. On n'a pas fait d'école, en fait. Il n'y a pas de chemin type pour devenir éditeur.
Au terme de ces entretiens autour de l'édition musicale, on s'aperçoit qu'il y a autant de modèles que de maisons d'édition. La longévité des éditions Henri Lemoine est une force au même titre que la jeunesse de la maison Ona. Toute action semble être un savant dosage de pugnacité et de passion, le tout sur fond d'équilibriste. Pour aller plus loin, découvrez les fiches papier consacrées aux intervenants et intervenantes de ce podcast sur le site monprojetmusique.fr et écoutez les autres épisodes de cette série dédiés au métier de la musique.